Suite des matins avec la revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Mais que diable les Australiens sont-ils venus faire dans cette galère?
Ça s'est passé samedi, mais la presse ne s'en remet toujours pas. Samedi donc, Scott Morrison, Premier ministre australien, déclarait ceci.
Australia now recognises West Jerusalem, being the seat of the Knesset and many of the institutions of government. Is the capital of Israel.
Voilà, c'est court mais précis. L'Australie reconnaît que Jérusalem-Ouest, siège de la Knesset et de plusieurs institutions, est la capitale d'Israël. Au premier abord, ça pourrait ressembler à un alignement sur les positions de l'Amérique de Donald Trump, faisant de Jérusalem et non de Tel Aviv la capitale de l'État d'Israël. Sauf qu'à un mot près, cette simple phrase venue de Canberra a fâché les autorités israéliennes. Le journal en ligne Middle East Eye nous en dit un peu plus. Si l'Australie devient bien l'un des rares pays à affirmer qu'elle veut déménager son ambassade à Jérusalem, le fait de préciser Jérusalem-Ouest est considéré comme une très fâcheuse erreur par l'entourage de Benjamin Netanyahou. Cela revient à acter la division de la ville sainte sur laquelle Israël revendique la souveraineté complète quand les textes de droit international reconnaissent comme légitime le contrôle de l'autorité palestinienne sur l'est de la ville. Mais est-ce bien une erreur innocente faite par l'Australien Scott Morrison? Certainement pas, estime le quotidien israélien Haaretz, en prenant cette position finalement à c'est clair en faveur d'une solution à deux États au Proche-Orient. Le chef du gouvernement de Canberra adresse à son homologue israélien un rappel à la réalité, cette réalité qui voudrait que non, tout le monde, comme Donald Trump, n'est pas d'accord avec sa vision des choses. En cela, poursuit Haaretz, Canberra se comporte comme un véritable ami d'Israël, le genre qui n'hésite pas à vous dire en trouvant les mots quand vous êtes dans le tort ou dans le déni. Alors on lira dans le Times of Israel cet appel lancé par la Ligue arabe, monsieur Scott Morrison, pas question de vous arrêter en si bon chemin, il faut aller au bout de votre démarche, dit la Ligue arabe, et reconnaître à présent Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, sans quoi la position australienne serait incompréhensible.
Camille, l'Italie. Le gouvernement italien a vécu hier son jour le plus long.
Et c'est en tout cas le grand titre des journaux transalpins ce matin pour évoquer le laborieux sommet gouvernemental d'hier soir, sommet sur le budget de l'Italie pour l'an prochain. Plus de 4h30 de débats à huis clos entre les ténors du pouvoir italien, le président du conseil Giuseppe Conte, ses deux vice-présidents, Matteo Salvini et Luigi Di Maio, et puis le ministre de l'économie Giovanni Tria. À la sortie, un peu après minuit, nous dit le Corriere della Sera, le communiqué officiel décrivait une atmosphère amicale, mais personne n'y a vraiment cru. Difficile en effet de ne pas voir les tensions qui déchirent depuis des semaines les deux partis au pouvoir, le mouvement 5 étoiles et la Ligue d'extrême droite, tension sur ce projet de budget qui pour l'instant a été rejeté par l'Union européenne. La marge de manœuvre était étroite, nous confirme le Corriere, mais Luigi Di Maio se félicitait cette nuit que personne n'ait eu finalement à baisser son pantalon face à Bruxelles. Lui et Matteo Salvini semblent y être parvenus en signant un pacte de non-agression tout en faisant chacun des concessions. Pour le détail, on lira Il Messaggero. La Ligue, par exemple, accepte de ne pas complètement saboter le projet d'écotaxe en approuvant finalement une taxe sur les voitures de luxe. Ça permet aux 5 étoiles d'obtenir une hausse de la prime à l'achat d'un véhicule non polluant et de débloquer des fonds pour boucher les nids de poules dans les rues de Rome. Ça peut paraître anodin dit comme ça, mais c'était une ligne rouge, paraît-il, pour l'électorat du mouvement populiste. Le gouvernement, insiste pour sa part Il Fatto Quotidiano, sauve aussi son programme visant à faciliter le départ anticipé des femmes à la retraite, en maintenant à 40% la diminution des retraites dorées qui sont versées par l'État aux anciens ministres et fonctionnaires. La Ligue y était opposée, mais elle obtient en échange que les maires des communes italiennes puissent passer des contrats sans appel d'offres pour tous les marchés publics jusqu'à 200 000 euros. C'est une manière affichée de favoriser les entreprises et les emplois locaux. Toujours est-il, nous dit enfin la Repubblica, qu'en trouvant un terrain d'entente, les frères ennemis du gouvernement italien ont la conviction d'avoir fait le plus dur, d'avoir vécu leur moment le plus important, dixit Luigi Di Maio, depuis l'élection qui les a amenés au pouvoir, à se demander si le leader des 5 étoiles a plus peur du coup près de la Commission européenne sur son budget ou bien de son soi-disant allié Matteo Salvini.
Bon, en tout cas, on voit qu'il n'y a pas qu'en France où les taxes sur les voitures liées au carburant pose problème, Camille. On va en parler dans quelques instants en compagnie de l'économiste Jean Pisani-Ferry. En Hongrie, tout autre chose, la nuit qui s'achève a été très longue pour ces députés et militants d'opposition qui ont décidé de camper dans le centre de Budapest.
Et c'est une manière d'ancrer dans la durée leur mouvement de révolte contre Viktor Orban et son gouvernement. En lisant la presse hongroise ce matin, on comprend que la révolte n'a fait que monter depuis 4 jours après le vote par le Parlement hongrois de la loi sur le travail. Elle a été votée mercredi. et elle instaure donc des heures supplémentaires déplafonnées à 400 heures par an et payables par les employeurs 3 ans après avoir été effectuées. C'est de l'esclavagisme, lit-on sur les pancartes des milliers de manifestants dans les rues de Budapest donc depuis 4 jours, et la revendication s'est élargie. Nous voulons de la démocratie pour Noël, a par exemple lu sur ces pancartes le magazine HVG dans le cortège d'hier. Orban démission aussi forcément, tant cette loi travail semble être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour l'opposition hongroise. Et le vase a largement débordé hier, à en croire HVG, le magazine, tout comme le site d'info pro-gouvernemental Origo. On n'y parle ce matin que de la violence qui a opposé les manifestants aux forces de l'ordre, en particulier devant le siège de la radio-télévision publique hongroise. La violence, c'est la nouvelle arme de l'opposition pour déstabiliser le pouvoir, affirme Origo, qui y voit en action la nouvelle étape d'un plan ourdi par personne d'autre que par le philanthrope américano-hongrois George Soros. Toujours lui, le sort de notre Hongrie est-il entre les mains des casseurs et des pillards, s'interroge le média possédé par l'opérateur national Magyar Telecom. Sur HGV, enfin, on lit un autre récit des manifestations d'hier soir au pied de la radio télé publique. Les manifestants ont demandé à pouvoir lire un texte sur les antennes nationales. Cela leur a été refusé. Les policiers ont ensuite chargé sous les lacrymos. De tout cela, bien entendu, les chaînes d'État n'ont quasiment pas parlé.